Ce soir, dans notre émission « Cause toujours, tu m'intéresses », les femmes sous loi musulmane. C'était cet hiver à Genève, 18 femmes représentant 16 pays sous loi musulmane se sont rencontrées dans le cadre du réseau des femmes sous loi musulmane, se sont rencontrées à Genève. Elles sont venues pour échanger leur expérience, pour mettre en commun leurs moyens d'action et pour lancer des campagnes de solidarité avec des femmes réprimées au nom de l'islam. La rencontre à Genève a été suivie pour chaque participante par un séjour dans le lieu de travail d'une de ses collègues. C'est en 1984, lors de la conférence Femmes et Santé à Amsterdam, que 9 femmes de pays ou de communautés musulmanes ont décidé de se constituer en un groupe de travail pour aborder ce qu'elles avaient en commun depuis l'Algérie, le Maroc, le Soudan, l'Iran, l'île Maurice, la Tanzanie, le Bangladesh, le Pakistan. Elles ont lancé des campagnes à l'occasion d'événements qui nécessitaient une action urgente. La dénonciation de la situation de 3 féministes algériennes qui contestaient l'introduction du nouveau code de la famille, arrêtées et détenues au secret pendant des mois, sans instruction ni procès. Ou bien le soutien à l'Indienne Sunni dans son action en justice contre l'État indien. La loi musulmane qui lui fut appliquée lors de son divorce lui déniait des droits par ailleurs garantis par la Constitution à tous les citoyens. Ou encore la campagne pour sauver une femme condamnée à mort pour adultère à Abu Dhabi. Nous avons tout d'abord rencontré Marie-Aimée, une des initiatrices du réseau Femmes sous loi musulmane et une des membres de ce qu'on a appelé les mères d'Alger. Les mères d'Alger, ce sont ces femmes françaises, anglaises, qui, mariées à des Algériens, sont privées de leurs enfants car ceux-ci ont été enlevés par leur père en Algérie. Nous lui avons tout d'abord posé des questions concernant la loi islamique et nous lui avons demandé comment cette loi islamique conditionnait la situation des femmes dans les communautés ou dans les sociétés musulmanes.
Eh bien d'abord, c'est une erreur de dire la loi musulmane et nous, on écrit ça au pluriel. Parce qu'il n'y a pas une loi musulmane, il y a des lois dans les pays musulmans qui toutes se prétendent islamiques. Et c'est un mot que nous n'utilisons pas parce que nous pensons que ça n'existe pas. Il existe des situations concrètes et donc il faut mettre un S à loi musulmane. Ça, c'est le premier point. Ce que nous avons en commun, toutes, c'est de vivre dans des pays où il y a une loi qui régit le mariage, le divorce, l'héritage, la garde des enfants, des problèmes de ce type-là, ces lois se disent toutes inspirées de la charia, c'est-à-dire de la loi islamique. Et en fait, on observe des variations extrêmement importantes d'un pays à l'autre dans la situation des femmes. Ça va de la libre disposition de ses biens et la liberté de circuler, la liberté de travailler, à des situations dans la, de toute façon qui sont très connues en Europe occidentale. Une vaste gamme de situations réelles, mais on a quand même des choses en commun, en particulier pour ce qui concerne le mariage, le divorce, l'héritage, la garde des enfants, la liberté de mouvement. Alors rapidement, on peut dire que dans beaucoup de pays ou de communautés musulmanes, il y a quelque chose qui s'appelle loi de statut personnel ou bien loi de minorité musulmane ou bien code de la famille. Quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est ces lois-là qui régissent la plus grande partie de la vie des femmes. Et ce à quoi on assiste ces dernières années, c'est un changement de quelque chose qui n'était pas vraiment... Excuse-moi, il n'y a plus que le mot anglais qui me vient, séculaire, c'est-à-dire...
Séculier.
Oui, mais il y a un autre mot en français pour ça, laïque. Et ça n'a jamais été vraiment laïque dans aucun de nos pays, à part la Tunisie, peut-être un tout petit peu. Mais on assiste à un renforcement de l'aspect dit musulman de nos lois. C'est-à-dire en 84, en Égypte, les femmes ont perdu un droit qu'elles avaient très durement acquis par 10 années de lutte, qui était celui de rester dans l'appartement conjugale si elles avaient des enfants, au cas où le mari divorçait. Et il faut comprendre que le divorce dans les pays musulmans, ça peut être simplement une répudiation. Il suffit de dire 3 fois « je te répudie » et on est à la rue. Alors en Égypte, elles avaient très durement conquis justement le droit de ne pas être à la rue. Le mari pouvait les divorcer, ce qui n'est pas français, mais qui explique bien ce qu'on veut dire, c'est un divorce unilatéral. Et elles ont perdu ce droit, puis elles l'ont reconquis récemment. Enfin, c'est tout, c'est très très menacé. En Algérie, en 84, pour la première fois depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis 62, on a perdu les bénéfices du code Napoléon, qui était déjà pas bien terrible, mais qui a été remplacé. Enfin, néanmoins, on a perdu notre droit au divorce, parce qu'on est sous... droit maléquite, c'est-à-dire qu'il nous faut un tuteur toute notre vie pour décider de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, si on veut un passeport, il faut que ça soit le tuteur qui en donne l'autorisation. Si on peut pas se marier, c'est le tuteur qui donne un mariage. Ça peut être le père, ça peut être un oncle. Et s'il n'y a personne, c'est la justice. Mais en tout cas, c'est jamais la femme elle-même. On a perdu complètement tout droit au divorce. Et seul le mari peut divorcer. Enfin, tout un tas de choses de ce genre, et on assiste à ce genre de recrudescence d'islamisme partout, au Pakistan récemment, au Bangladesh, et récemment on a reçu des nouvelles de l'île Maurice où elles ont été confrontées au même problème aussi, c'est-à-dire de passer, alors là, d'une loi vraiment laïque, à, les musulmans ont demandé une loi islamique.
Mais comment tu interprètes ce retour ce retour, je ne sais pas si on peut appeler ça ce retour à ces lois traditionnelles, à ces lois islamiques, musulmanes. Parce que parfois on a l'impression que c'est une utilisation très très moderne d'une vieille loi, qu'elle sert actuellement beaucoup au pouvoir en place.
Oui, c'est absolument ça et c'est uniquement ça, c'est des problèmes politiques qu'on règle en utilisant la religion pour manipuler les gens.
Donne-nous un exemple. Je connais un peu le cas du Pakistan où on a l'impression que là, l'utilisation de l'introduction de la charia sert aussi à museler un mouvement de femmes et une opposition dirigée par une femme.
Non, je crois que c'est pas que ça. Je pense que ça ne sert pas qu'à museler les femmes. Je crois que ça n'a jamais eu... Enfin, pour moi, l'expression « l'opium du peuple » n'a jamais eu autant de valeur qu'actuellement dans beaucoup de pays musulmans et dans l'Iran, avant toute chose. Ça sert à imposer un contrôle total par la police, par l'armée, et à mettre en place des gouvernements antidémocratiques et à les maintenir à cette place-là. Et les femmes font les frais de cette opération parce que c'est sur nous que porte l'essentiel de l'islamisation, étant donné que jusqu'à nouvel ordre, aucun pays musulman n'a rien changé ni aux structures économiques, ni à l'acquisition du capital, ni à la distribution des biens, etc. Et donc, c'est nous qui sommes les garants de l'identité nationale. Et on paye ça très très cher.
Alors, il existe ce réseau de femmes sous la loi, sous les lois musulmanes, excuse-moi, et disons ici en Suisse et en France, on en a entendu parler à travers le cas des femmes algériennes, des femmes françaises mariées, enfin plutôt ayant été mariées avec des Algériens et qui se disputent un peu les enfants qui ont été enlevés par les pères et qui se retrouvent en Algérie. Et surtout, il y a eu ce cas de Mansouri. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
Oui, dans le réseau, nous avons pour principe de circuler tous les appels que nous recevons, les appels à solidarité. Le réseau s'adresse aussi bien à des femmes qui vivent dans des pays complètement musulmans qu'à celles qui vivent dans des pays où elles sont minoritaires. Le réseau s'adresse à celles qui vivent dans des pays où l'islam est religion de l'État, ou bien où l'islam n'est pas la religion de l'État. Et notre réseau s'adresse aussi à celles qui sont affectées par les lois musulmanes à travers leur mariage ou à travers les enfants issus de ces mariages. Et ça a été très très clairement exprimé dès le début du réseau, c'est-à-dire vers 83-84. Donc nous avons été saisis parmi beaucoup d'autres appels qui n'ont rien à voir avec l'Occident, du cas des mères d'Alger, comme on les appelle, et elles ont été soutenues dans le réseau, c'est-à-dire il y a eu des lettres de soutien de beaucoup de pays. Et on trouve que c'est très important, d'abord parce que ce n'est pas parce qu'elles sont françaises qu'elles sont pénalisées, c'est parce que ce sont des femmes mariées à des hommes qui appliquent à leur bénéfice les soi-disant lois musulmanes. Donc il y a des millions de femmes dans le monde musulman à qui on enlève leurs enfants à des âges différents, et je peux vous expliquer les variations. En général, on enlève le garde. Quand on parle de garde confiée à la mère dans les pays musulmans ou dans les communautés musulmanes, c'est un terme qui ne convient pas dans la traduction française, parce que les mères sont... On leur confie l'enfant en bas âge, c'est-à-dire le temps qu'il faut les torcher, très exactement. Mais à tout moment, la garde, la tutelle revient au père. Et le père peut exercer cette tutelle aussi bien pendant que la mère en a la garde matérielle qu'après. Et les lois prévoient, avec des variations légères, que les garçons sont enlevés à leur mère, soit à partir de 2 ans, ce qui est vraiment très très tôt, en général vers 6, 8, 9 ans, et les filles un peu plus tard, et dans certains cas, à la puberté ou jusqu'au mariage. Mais si le père n'est pas satisfait de l'éducation donnée par la mère, ou si la mère se remarie, à tout moment, le père peut reprendre l'enfant. Donc c'est jamais une garde au sens où vous pouvez l'entendre. Il faut bien bien préciser ça. Donc les mères d'Alger sont dans ce cas-là, parce qu'il y a conflit de législation si elles se sont mariées en France. Elles se sont mariées avec d'autres idées en tête sur leurs droits, et ce que fait le père, c'est simplement rentrer chez lui et faire appliquer la loi de son pays. Donc nous estimons qu'elles sont sous loi musulmane, et ça n'a rien à voir avec leur nationalité. Ce qui leur est appliqué, c'est ce qui nous est appliqué, et donc nous les défendons, et on trouve qu'on a fait un très grand pas dans l'internationalisme en prenant à cœur cette affaire. Et on trouve aussi qu'on a démontré que l'aide, c'était pas forcément nord-sud, ça pouvait être sud-nord, et la solidarité. Bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a soutenus, et moi c'est une affaire que j'ai suivie de très très près, et je voudrais dire que leurs actions, je ne sais pas si vous les connaissez toutes, mais il y a eu en 84 quelque chose qui s'appelait le bateau pour Alger, où elles étaient des femmes de 25 nationalités différentes, y compris un nombre important de femmes de Tunisie, du Liban, du Maroc, c'est-à-dire de pays musulmans. Et ça, on le ramène jamais à la surface, et c'est vraiment très important. Bon, cette affaire a échoué parce qu'elles ont été intimidées, aussi bien le président algérien que le président français de l'époque, disant « arrêtez tout et on vous arrange l'affaire en 6 mois, puis c'est jamais rien passé ». Donc en 85, 5 d'entre elles qui ont été choisies parmi les Françaises pour des raisons tactiques ont occupé l'ambassade de France à Alger. Donc il fallait que ce soit des Françaises. C'est pour ça que ça a été des Françaises. Et maintenant, ça n'est plus que ça qui est connu. Mais au départ, elles étaient beaucoup plus. Elles ont occupé pendant 5 mois l'ambassade de France à Alger. Et elles ont finalement obtenu de voir leurs enfants. Parce que dans la plupart des cas, elles ne peuvent même plus voir leurs enfants. Les pères simplement n'en donnent pas l'autorisation, comme c'est leur droit. La loi leur donne ce droit. Et en 86, elles ont fait une marche de 600 km, Paris, Strasbourg, c'est-à-dire le Parlement européen, et Genève, la Commission des droits de l'homme. Et je voudrais dire à ce sujet que 600 km en février, c'est pas rien, qu'il y en a qui ont perdu leur boulot. Et elles ont été rejointes par une mère britannique qui a l'intention de démarrer un mouvement identique en Grande-Bretagne. Quand elles sont arrivées à Genève, il n'y avait pas une femme suisse pour les accueillir. Sous prétexte que c'était pas bien organisé, enfin sous divers prétextes qui ne sont en aucun cas valables. Par contre, il y avait des femmes algériennes venues de Besançon, de Grenoble et de Marseille et de Lyon, si je me souviens bien, avec d'énormes photos de leurs enfants enlevés. Ce qui prouve bien l'internationalisme de l'approche de ces femmes-là. C'est pas du tout le match France-Algérie, c'est quelque chose d'autre. Et on a été bien déçus que les femmes suisses ne viennent pas. Ah non, le lendemain ou le surlendemain, vous les avez reçus, mais vous n'étiez pas ni à la frontière, ni nulle part quand elles sont arrivées. Ce qui est important à dire sur leur cas, c'est qu'elles ont obtenu gain de cause. Non seulement elles ont obtenu, après la marche, de voir leurs enfants, de les avoir en France, chez elles, pour la première fois pendant un mois de vacances, et je dois dire que c'était très traumatisant. Pour tout le monde, c'est quelque chose d'être séparé pendant 7 ans, 8 ans, 10 ans de ses enfants et de les retrouver dans une situation tellement artificielle. Je voudrais dire aussi que l'Algérie a fait un geste à Strasbourg en envoyant précipitamment les enfants rejoindre les maires au Parlement européen. Il y a un film qui a été fait là-dessus, ça s'appelle Le Voyage d'hiver de José Constantin et il y en a une copie à disposition au bureau de coordination de femmes sous loi musulmane. Les enfants ont été amenés de force. Ils n'ont jamais su pourquoi ils étaient amenés, ni les pères non plus. C'est-à-dire l'Algérie qui prend tant de soin à respecter le droit des enfants à avoir leur père. Et bien dans ce cas-là, pour une opération de prestige et de publicité, on a embarqué tout le monde à coups de poing dans un avion. Et c'était vraiment terrible pour tout le monde. Et ensuite, bon, les ont vues l'été d'après, et enfin une convention vient d'être signée. Elle a été préparée par les mères elles-mêmes, dans un souci du bien de leurs enfants que je n'avais jamais vu avant. C'est-à-dire qu'elles ont pensé qu'en cas de divorce, déjà l'enfant est séparé d'un des deux parents, et qu'il n'était pas question d'ajouter à ça le fait de laisser sa maison, son école, ses copains, sa ville et tout. Et que donc, en principe, elles sont d'accord pour que l'enfant reste là où il est. C'est-à-dire, si le couple a vécu en Algérie, que l'enfant reste en Algérie. Si le couple a vécu en France, que l'enfant reste en France. Elles ont aussi obtenu des deux gouvernements français et algériens qu'ils s'engagent à faire respecter les droits de visite et le retour aux parents gardiens. Et c'est la première fois que des États s'engagent à ça. Maintenant, on va voir comment ça marche. Il y a déjà des enfants qui ont été rapatriés très très récemment, dans les deux sens. Et on trouve que c'est bien. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les enfants naturels n'ont pas de statut en Algérie. Ils n'existent pas, comme dans la plupart des pays musulmans. Et donc, ces enfants-là ont été rapatriés en priorité, en général en France, puisque là, ils ont une légitimité. Ce qui a posé problème, c'est que dans le texte qu'elles avaient proposé et qui avait été en principe accepté par l'Algérie, il était écrit que cette convention concernait les parents séparés ou divorcés vivant l'un en France, l'autre en Algérie. L'Algérie a précipitamment changé cette phrase en disant les couples binationaux, ce qui exclut toutes les Algériennes vivant en France dans l'immigration, donc qui ont aussi leurs enfants enlevés. Et je voulais te dire, la première étape de la marche Paris-Genève, il y avait une Algérienne qui était venue les rejoindre parce qu'elle avait fait partie du bateau pour Alger. Et elle a 7 filles en Algérie qu'elle n'a pas revues depuis 10 ans. Bon, maintenant il y a un autre problème, c'est la Britannique qui a fait toute cette marche et qui n'a pas bénéficié de cette convention parce qu'elle n'est pas française. Donc il va y avoir une autre action qui va démarrer en Angleterre, où il y a à peu près 25 femmes qui vont probablement, vers Noël, faire une grève de la faim.
Et le cas Mansouria ?
Le cas de Mansouria, c'est assez typique de l'immigration algérienne en France, mais on connaît aussi des tas de cas d'immigration turque en Hollande ou autre en Europe, où il se produit la même chose. C'est-à-dire, cette fille a été amenée en Algérie, en France, par ses parents à l'âge de 6 mois. Elle n'a jamais vécu en Algérie. Ses parents lui ont annoncé, elle a maintenant 20 ans, elle est étudiante en anglais à l'université de Toulouse. Et ses parents lui ont annoncé joyeusement depuis 2 ans qu'ils allaient la marier à Mostaganem en Algérie. Elle a toujours dit qu'elle ne voulait pas, mais enfin, ça n'a aucune importance. Elle a été une première fois séquestrée en décembre par son père et son frère. Elle a été énormément battue et droguée, il y a des témoignages écrits, puisqu'elle a été transportée à l'hôpital Purpan à Toulouse. Et là, l'assistante sociale a décidé de la sortir de sa famille, avec son consentement puisqu'elle était majeure, et elle a vécu dans la maison des femmes d'Albi. C'est une ville qui n'est pas très loin de Toulouse, malheureusement pas assez loin apparemment, où elle a vécu en continuant ses études par correspondance, c'est-à-dire qu'elle ne sortait pas. Malgré ça, le frère a réussi à la retrouver. Elle est donc restée de janvier à juin à la maison des femmes d'Albi sans sortir. Puis, vers fin mai, il a retrouvé sa trace. Il lui a fait un tas d'amabilités en disant « c'est fini, n'en parlons plus, tu peux revenir », etc. Et le 5 juin, il l'a enlevée. Elle dit qu'elle a été droguée. C'est-à-dire, il est venu la voir, il lui a fait boire du yaourt, il mangeait un gâteau qui avait été préparé à son intention. Et elle s'est réveillée à Barcelone, à l'aéroport. Il l'a emmenée en voiture. Bon, elle a été transportée à Mostaganem, gardée dans la famille. Le mariage était prévu pour juillet, mais comme elle avait déposé plainte pour sa première séquestration contre son père et son frère, ils ont été retardés par la justice qui faisait vaguement des investigations les concernant. Et donc le mariage a été repoussé à août. Et entre-temps, un comité de soutien s'est mis sur pied et nous y avons pris part. Et nous avons réussi à contacter le président de la Ligue des droits de l'homme en Algérie, après avoir contacté beaucoup d'autres gens, et en France et en Algérie. Et il a résolu le problème très rapidement, c'est-à-dire qu'elle a été... elle a comparu en justice 2 jours avant la date prévue pour son mariage. Et le mariage, c'est 2 choses différentes. Hein. Il y a un contrat de mariage qui est la chose légale, et puis il y a une fête qui est la consommation du mariage. Mais la légalité du mariage part de la date de signature du contrat, ce qu'on l'a obligé à signer dès le jour où elle est arrivée en Algérie. Donc légalement, elle était mariée, mais le mariage n'était pas consommé. La date était prévue, c'était en août, je ne me rappelle plus quand. Le 10, je crois, je ne sais plus. Donc le juge a fait usage de l'article 13 du code de la famille en Algérie qui dit qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à se marier, bien que ça soit extrêmement courant et qu'on fasse jamais usage de cet article. Enfin, c'est arrivé et donc le mariage a été dissous. Elle n'a pas été divorcée, le mariage a été dissous, annulé, ce qui est très important en termes de jurisprudence pour nous. Et elle a été renvoyée en France très très rapidement, une semaine après. Ce que je veux dire sur ce cas-là, c'est que c'est l'Algérie qui a résolu l'affaire, que la justice française a refusé d'enregistrer une plainte pour enlèvement que la Maison des Femmes d'Albi voulait déposer et que d'autres associations de femmes que nous avions joint, y compris une association de femmes suisses, mais je ne sais pas laquelle, il a été impossible de faire entendre ce cas à la justice française. Nous n'avions pas de preuves, disait-il, de l'enlèvement. Bon, moi je pense que ça renvoie à toute une mentalité par rapport à l'émigration. Moi j'ai entendu successivement ce type d'argument. D'abord, c'est une affaire privée, bien entendu. Quand il s'agit des femmes, c'est toujours une affaire privée. Enlever un homme, ça sera plus une affaire privée. Deuxièmement, c'est une affaire entre Algériens. Je vois pas ce que ça change. Quand on vit quelque part, on est sous la loi de ce pays. Si vous venez habiter chez moi, vous serez sous la loi de mon pays. Mais non, là, c'est une affaire entre Algériens, c'est banal, on n'a pas à intervenir, qui s'égorge entre eux, on n'en a rien à faire. Hein. Et troisième argument, c'est une affaire intérieure à l'Algérie, et nous n'avons pas à nous immiscer dans les affaires de l'Algérie. Alors comment un enlèvement commis en France, à Albi, peut-il être considéré comme une affaire intérieure à l'Algérie? L'Algérie a donné un joli camouflet à la France en réglant cette affaire, précisément.
Est-ce qu'il y a d'autres cas dans d'autres pays de lutte de ce réseau qui a abouti à des résultats ?
Eh bien, écoute, on a eu beaucoup de chance parce que tous les cas qu'on a pris en charge, on les a résolus. Mais c'est de la chance. Faut pas en dire plus. On a démarré le réseau par ce genre d'affaires. Il y avait 3 féministes algériennes qui ont été arrêtées pendant 7 mois pour avoir simplement transmis, lu à d'autres femmes, le contenu d'un texte de loi, c'est-à-dire du code de la famille. Bon, il y a eu une campagne internationale et c'est là qu'on a commencé à démarrer le réseau parce que comme on est toujours accusé d'être occidentalisé, vendu, traître à la patrie, à la révolution, à l'islam et à tout le reste, on n'avait qu'une solution, c'était d'avoir du soutien de l'intérieur des pays musulmans et c'est comme ça qu'on a commencé à s'organiser. Elles ont été libérées après 1 mois et demi de campagne, ce qui est vraiment un record pour l'Algérie et je crois pour le monde entier. Le deuxième cas dont on s'est occupé, c'est une Indienne qui a été divorcée, et je fais cette faute de français à dessein, qui a été divorcée par son mari au nom de son droit musulman, et qui est allée en Cour suprême en demandant comment un droit qui lui était garanti par la Constitution pouvait lui être dénié par le statut personnel, c'est-à-dire le code de la famille. On l'a soutenue. Son affaire est toujours pendante, mais enfin, ça va bien pour elle. Et le troisième cas, qui nous a vraiment fait décider d'avoir un réseau permanent et non plus des rencontres occasionnelles, c'est celui d'une femme émigrée du Sri Lanka à Abu Dhabi. Il faut vous dire que bien que les femmes soient clouées à la maison et enfermées dans les pays musulmans, dès qu'il s'agit d'économie, on n'a plus de problème. C'est-à-dire, Sri Lanka exporte massivement des bonnes à tout faire dans les pays du Golfe. Elles ont un statut d'esclave, leur salaire est envoyé à leur mari. Elles ne le touchent pas. Elles n'ont pas le droit de revenir avant l'expiration de leurs 2 ou 3 ans de contrat. Il y a un véritable esclavage sexuel. Elles n'ont pas de congé. Elles n'ont pas de sécurité sociale ou d'assurance ou d'équivalent. Bref, c'était une femme dans ce cas. Elle a été enceinte. Alors, il y a un crime dans un certain nombre de pays musulmans et pas dans tous qui s'appelle zina, qui recouvre à la fois ce qui correspond à vos concepts en droit. Ici, concept de fornication et d'adultère, les deux en même temps. C'est-à-dire tout acte sexuel commis hors mariage. Comme elle a été enceinte, c'était la preuve qu'elle avait donc commis ce crime de zina. Ça n'est pas comme l'adultère dans certains pays occidentaux où c'est un crime contre le mari, contre l'institution du mariage, c'est un crime contre l'État. Ce qui veut dire que n'importe qui peut porter plainte. Le flic du coin, le voisin, le mari, n'importe qui. Donc elle a été, à cause de ça, emprisonnée, condamnée, ce qui est normal et arrive aussi au Pakistan, mais bien que ça n'ait jamais été exécuté au Pakistan, il y a eu des condamnations de ce genre, elle a été condamnée à être lapidée jusqu'à ce que mort s'en suive, et cette condamnation ne devenait effective que quand elle avait donné naissance à l'enfant et l'avait nourri pendant 2 mois. Bon, on a réussi à la faire expulser sur le Sri Lanka. Mais elle nous a dit qu'il y avait des milliers de femmes dans son cas dans les prisons du Golfe. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à faire beaucoup pour ça. Voilà les cas par lesquels on a démarré le réseau. Et ensuite, je pense qu'on est passé à un autre stade, c'est-à-dire on a senti le besoin d'échanger de l'information sur nos situations qui ne sont pas absolument similaires. Et d'échanger du soutien de façon permanente. Et quand je parle d'information, c'est pas seulement information sur nos situations, c'est aussi information sur nos luttes et sur nos stratégies, parce qu'on pense qu'on peut apprendre les unes des autres et développer de nouvelles stratégies peut-être plus efficaces que celles qu'on a suivies.
تغلظين تسيني ثم عرضاني تغشتي. You're my thing.